Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça, ça me parle, mais ich, j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. » Bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Le maudit poids ». Aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je suis avec Audrey Trudel, puis là, je suis comme fan, ben, j'ai comme découvert son podcast, puis je capote. Fait que, allô Audrey Trudel!
Allô Sarah! Moi, c'est moi qui est contente d'être là. Je suis contente d'avoir découvert une nutritionniste comme toi.
Vraiment. Ah! Ben, c'est le fun! Il y en a d'autres! Fait que, Audrey, on met en contexte, mettons... Ben, je t'ai invitée aujourd'hui parce que on voulait parler de grossophobie, particulièrement quand on parle de fertilité. Donc, tu voulais nous parler de ton témoignage. Est-ce que tu veux nous parler un peu justement de ton parcours, ton histoire, tranquillement, on rentre dans le sujet?
Oui, parce que en fait, c'est drôle parce que tu sais, tu parles de mon podcast, mais sans tout ce que je vais te raconter aujourd'hui, il n'y aurait pas de podcast et il n'y aurait pas de business non plus, tu sais.
Oh my God! OK, ça j'aime ça.
Moi, il m'a fallu, tu sais, comme beaucoup d'humains, il m'a fallu beaucoup de claques à la gueule, beaucoup de messages forts de la vie pour faire quelque chose puis créer une vie que j'aime. Mm-hmm. On va discuter ensemble aujourd'hui, tu sais, pour moi, ça en fait vraiment partie.
Nice.
Mettons que, là, coupe-moi quand tu veux. Hein,
ouais, non, moi, je te dis, là, j'adore ça. Quand on m'invite sur un podcast, je suis pareil. Fait que, profite-en.
Mon histoire, en fait, débute dans mon ancienne relation quand j'étais mi-vingtaine, puis qu'à un moment donné, ben, t'as l'âge où tu fais toutes les affaires de madame, là. Maison, un travail, puis...
Les affaires de madame, j'aime ça.
Ah oui, tu sais, puis là, tu te dis, ben, je veux une famille, tu sais, moi aussi, puis je me rappelle avoir eu la discussion avec mon ancien conjoint, tu sais, où j'étais comme, ah, tu sais, on pourrait peut-être comme commencer à regarder ça. Puis lui, il trouvait que j'étais comme rapide en affaires, mais moi, je me disais, bon, la moyenne, c'est comme 9 mois à 1 an, fait qu'on tombe enceinte, puis les femmes tombent enceintes, fait que, tu sais, ça va arriver dans comme 2 ans, dans le fond. Tu sais, j'étais super convaincante, tu comprends, dans mon histoire. Moi, j'étais prête, dans le fond, avec mes arguments. Fait que finalement, il était comme, OK, tu sais, et ça n'a pas été long, je dirais, peut-être 6 mois avant que moi, je réalise que... Je sais pas, tu sais, je pense que les femmes ont une forte intuition puis qu'il faut l'écouter. Je savais qu'il y avait un problème. Tu sais, je savais pas c'était quoi, mais j'étais comme, c'est beau, là, les statistiques que ça prend dans la majorité. Ouais. Mais je sais pas, je le savais. Tu sais, c'était comme ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé passer, en fait, les premiers examens, puis on a fini par découvrir que c'était du côté de mon ancien conjoint, dans le fond, les problèmes de fertilité. Ça, je le nomme maintenant parce que souvent, les gens associent l'infertilité à la femme.
Ah, tellement! Tellement!
Ah oui, puis c'est faux.
Amen to that, ouais.
C'est complètement faux. Je pense que c'est parce qu'on porte la vie, là. Fait que tout le monde pense que c'est notre corps qui n'est pas capable. Puis de toute façon, peu importe ça vient de qui, c'est pas de la faute à personne dans tous les cas.
Tout à fait.
Mais bref, je le nomme parce que c'est important que ça se sache, je pense. C'est pas juste les filles.
Non, mais c'est un bon point. C'est rare qu'on entend que le problème peut venir du côté de l'homme. Peut-être un petit peu, mais publiquement comme ça, moins. Puis ça fait toujours du bien de l'entendre aussi, là.
Ouais, je pense qu'il y a une affaire d'égo, peut-être, tu sais, qui fait en sorte qu'on c'est peut-être moins nommé chez l'homme. Tu sais, comme là, tu vois, je nomme pas non plus, je nomme jamais c'est qui, tu sais, parce que...
Non, 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 ouais. Non, mais non.
Fait que bref, rapidement, on a su qu'il y avait une problématique, puis nous, on nous a envoyé au départ faire des inséminations artificielles. Je pense qu'on a fait ça pendant 6 à 9 mois. Puis je vais prendre quand même 2 petites secondes pour expliquer la différence entre
oui, une insémination
artificielle et une vitro, parce que pour plein de gens, c'est très, très, très nébuleux.
Ouais.
Dans cette histoire-là, qui est mon histoire, mais qui est l'histoire de tellement de couples, gagne presque 20% des couples qui ne sont pas capables d'avoir des enfants. C'est
énorme!
Là, c'est presque 20%.
Wow.
C'est énorme, la proportion. C'est un sujet qui est tabou, que les gens ne parlent pas, que les gens ne savent pas comment réagir, quoi dire. Puis les gens souvent pensent qu'on rentre dans une clinique de fertilité puis on sort avec un bébé, là, tu sais, comme c'est facile.
Ouais.
C'est un processus... Le mot, j'ai envie de dire, c'est dégueulasse. Fait que c'est ça que je vais dire. C'est vraiment, vraiment challengeant à plein niveau. Donc, une fécondation in vitro, c'est souvent la deuxième étape. Fait que je vais commencer par l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est très, très simple. La façon dont ça fonctionne, en fait, à la clinique, ils vont nous faire plusieurs échographies dans le mois pour arriver au moment où nos follicules... Hein? Là, il y a plein de filles qui sont comme, c'est quoi des follicules, moi aussi, je
dis. Ouais! Vas-y, Audrey, c'est quoi des follicules?
Là-dedans qui sont tes ovules.
Oh, c'est beau!
Là-dedans qui sont tes ovules, et donc, à tous les mois, tes follicules deviennent à maturité. Et quand ils sont assez matures, là, en injection, la clinique va provoquer ton ovulation. Et généralement, le lendemain, tu vas avoir une insémination artificielle, ce qui est comme un petit tube avec une seringue dans lequel il pousse le sperme le plus près possible de ton ovulation en espérant une grossesse. Donc, c'est quand même assez simple. On peut utiliser le sperme du conjoint qui est nettoyé si besoin. Là, on enlève les spermatozoïdes qui sont difformes,
bon.
Qui sont blancs, moins ceux qui sont moins bons, on les enlève pour laisser de la place aux autres qui sont all-in. Fait que c'est pas mal ça pour l'insémination artificielle, puis t'attends 2 semaines, puis tu fais un test de grossesse. Merci, bonsoir. C'est ce qui se rapproche le plus d'une relation sexuelle traditionnelle. On va dire normale, mais on va dire traditionnelle. Fécondation in vitro, c'est un tout autre concept, et tout dépendamment des différentes problématiques de fertilité, il va y avoir plus ou moins de prise d'hormones. Je dis pas qu'en insémination artificielle, tu prends pas d'hormones. Moi, j'en prenais comme 5 pilules par mois, je pense, pour aider. Mais sinon, généralement, il y en a moins là, en insémination artificielle. Tandis qu'en fécondation in vitro, rapidement, tu rentres dans les injections, dans les patchs.
C'est ça, hein? OK.
C'est un extrêmement coûteux, la médication pour la fécondation in vitro. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est très, très, très invasif. Une fécondation in vitro, l'objectif, c'est que tu produises le plus d'ovules possible pour qu'on aille chercher les ovules et qu'on les féconde à l'extérieur de ton corps. Ce qui fait qu'avant ta ponction d'ovules, qu'on appelle, donc on va aller avec une grande aiguille aspirer
l'ovule,
on va rendre plein d'hormones pour produire plus d'ovules. D'habitude, tu fais un ovule par mois. Là, tu peux en faire 10, 15, 20, 30.
Ah, quand même!
Ouais, je me suis d'ailleurs toujours demandé si ça allait raccourcir ma durée de vie avant d'être ménopausée. une réserve ovarienne, tu sais, qui est variable. On a tout un nombre X d'ovules, tu sais, qu'on va avoir dans notre vie. Puis je suis comme, si moi, je les ai toutes faites d'avance, qu'est-ce qui va se passer?
Wow.
C'est comme une question.
On s'en reparlera dans une couple d'années, Audrey. J'avoue, c'est un bon point.
Ouais. J'aurais aimé ça qu'on m'en parle, mais bon, regarde.
Attends, là, on fait une pause. T'étais pas au courant?
Ben, en fait, on m'a rien dit concernant ce que ça allait avoir comme effet sur mon corps dans le futur. Non.
OK. Ça, non. C'est pas une décision libre et éclairée, là, tant qu'à moi?
Ben, je suis pas sûre qu'on en parle. Je sais même pas s'ils savent qu'est-ce que ça fait. Tu sais, je le sais pas. Tu sais, j'ai resté 7 ans, là, c'est ça que j'ai pas encore dit. Moi, j'ai fait 7 ans de traitement de fertilité.
Oh, shit, OK. Et
j'ai effleuré, là. C'est quelque chose que je connais bien.
Ouais, c'est ça. OK.
Fait que on m'a jamais parlé de ça. Pour vrai, jamais.
OK. C'est quand même étonnant.
Oui. J'ai toujours
pas positivement, là, mais ouais.
Fait que c'est ça, tu prends plein d'hormones en patch, en injection, en pilule. Tu te rends, évidemment, il y a des échographies, il y a des rendez-vous, puis tout ça pour voir là, la maturité de tes follicules. pardon, mon Dieu, j'ai peut-être fait du bruit. Tu vis ta ponction de ville le mieux que tu peux. Puis ensuite, quand tu repars de là, tu continues en fait les injections parce que généralement, si le processus se passe bien, tu vas avoir un embryon qui va marcher ou plusieurs, si tu es encore plus chanceuse, qu'on va venir t'implanter dans quelques jours à peine. Et ton corps, pour recevoir l'embryon, bien, il doit penser qu'il est enceinte. Mm. Tu peux pas mettre un bébé de 5 jours de vie, un embryon de 5 jours de vie dans un corps qui
n'est pas prêt à ça, là.
T'sais, donc, tu continues, généralement, tu continues les injections, la progestérone, il me semble, dans intramusculaire, je pense que c'est 3 mois au moins, là, t'sais, si ça fonctionne.
OK, quand même, hein?
Et dans le cas où tu as d'autres embryons que ceux-là, ben on va les congeler, puis ils vont les décongeler à tes prochains transferts d'embryons si jamais c'est négatif. Il y a toujours un risque à la décongélation là, que l'embryon décède. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, de partir de Québec. J'habite à Québec, j'ai été traitée à Montréal. De me rendre là, dans la salle d'opération, écartée, toute la patate.
Oh mon Dieu!
Rabais-toi, fille. Ça marche
pas. Ouch!
Ouais. Fait que, la grossophobie dans l'histoire?
Oui! Oui, on sait qu'elle est là, on la sent, là. On la sent.
Je voulais juste mettre les bases claires pour comprendre vraiment le processus. Au départ, moi, ça a bien été en insémination artificielle, on m'a jamais parlé de mon poids. Puis il y a une chose que je voudrais dire par rapport à la fertilité puis au poids, puis peut-être que tu en connais plus que moi là-dessus, tu me le diras. C'est sûr que quand on est très, très mince, voire, je vais utiliser le terme maigre, là, je sais pas si on peut. Mm-hmm.
Oh oui, vas-y.
Ça peut avoir un impact sur le cycle menstruel. Même chose en surpoids, ça peut aussi avoir un impact sur le cycle menstruel. Fait que je veux pas que personne pense que je suis pas au courant de cette affaire-là.
C'est
pas... Je pense que la différence dans mon cas, c'est que ça n'a jamais eu d'effet, peu importe mon poids, tu sais, ça n'a jamais eu d'effet personnellement sur mon cycle menstruel, à la quantité d'examens que j'ai fait, même des biopsies, tout ce que tu veux, là, tu sais, pour être sûr, des tests de chromosomes, j'en ai pas de problème de fertilité, OK? Donc, en insémination artificielle, on n'en a pas parlé, ça a bien été. C'est sûr que j'ai trouvé ce bout-là quand même éprouvant parce que l'insémination artificielle, là, gang, c'est toujours le premier choix parce que c'est celui qui est le moins coûteux.
Mmh, comme bien des affaires au Québec.
Oui, mais c'est celui qui est le plus dangereux, qui peut provoquer le plus de grossesses multiples.
Ah oui, OK.
Parce que tu n'as pas de contrôle, en fait. Tu pitches le sperme-là et tu t'en merci, bonsoir. Donc,
surprise!
Il y a peu de pourcentage de réussite aussi.
Ah ouais, OK.
Oui, c'est ça.
Non, je ne savais pas.
Le taux de réussite en insémination artificielle est plus bas que en fécondation in vitro.
OK.
C'est sûr que la fécondation in vitro, c'est invasif, c'est quelque chose, c'est prenant. Mais les inséminations artificielles, c'est prenant, mais juste d'une autre façon. C'est juste plus simple. Bref, fait que, on a commencé par ça pour se faire finalement renvoyer dans une autre clinique. En fait, on pouvait choisir, on avait juste une prescription pour aller en fécondation in vitro parce que là, après plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas. Moi, j'ai fait un premier cycle de fécondation in vitro dans une clinique à Montréal que je vais taire aujourd'hui parce que ces gens-là sont plus riches que moi, tout le monde. Fait que je vais les taire, OK? C'est pas ça qui est important. Je pense qu'il est important de retenir dans ce que je veux dire, c'est si vous vivez de l'infertilité, magasinez votre clinique. Trouvez un endroit où vous allez vous sentir bien puis accueilli parce que ça existe.
Puis, on peut-tu, mettons, le dire que, peut-être je vais trouver, mais tu parlais avant qu'on enregistre, que justement, tu ne sais pas nécessairement que tu vas te faire revirer de bord tout de suite en fonction de ton poids. Fait qu'est-ce que ça serait bon que la personne, quand elle appelle, elle s'informe des critères?
Oui, c'est important. Mais tu fais bien de le dire maintenant. En fait, c'est important, oui, de s'informer des critères parce qu'il y a des cliniques qui ont des critères très précis. Puis quand tu attends ton rendez-vous, que tu peux attendre des mois, parce que c'est contingenté, l'infertilité gagne, tu peux attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir ton premier rendez-vous, puis après ton premier rendez-vous, tu as une série d'examens, des prises de sang, tu sais, ça se fait pas de même, là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est super long avant même de commencer le processus. Fait que c'est le genre de choses, je pense que c'est important de s'informer avant d'attendre énormément de temps, puis de perdre du temps aussi, parce que...
Mais c'est ça.
J'ai beau avoir 25 ans, 27 ans, moi, je suis restée là 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Il y a des nouvelles règles aussi. À partir de tel âge, tu peux plus y aller en fertilité.
Ah, ouais?
Moi, je pense qu'ils le font pas à partir de 43 ans. Puis 40 ans, quand tu as commencé. Faut valider ce que je dis, là, mais il y a des limites d'âge maintenant, tu sais, fait que oui, chez les femmes, on a un deadline quand même. Donc, c'est ça, j'ai fait ma première fécondation in vitro. On m'a jamais parlé de mon poids à cette clinique-là. Par contre, à ma première fécondation in vitro, tantôt, moi, je vous ai parlé de la ponction de vulve, qui est un processus quand même douloureux, honnêtement. Comme j'ai dit tantôt, c'est une aiguille très longue qui passe par le vagin et qui va aspirer un liquide dans ton corps, puis les ovules sortent de là, puis l'embryologiste, lui, l'autre bord, il reçoit ça, puis il trie, puis il nettoie, puis il choisit les ovules qui sont, selon lui, viables. Et moi, ma première ponction de vulve, en fait, ce qui s'est passé dans cette clinique-là, dans cette salle-là, il y a le médecin, il y a une infirmière, il y a mon ancien conjoint, puis moi, j'ai mal, là, ça me fait super mal. Je commence à avoir de la difficulté à tolérer la douleur, tu sais, fait que là, je pleure un peu, puis là, tu sais, c'est sûr que je bouge parce que ça fait mal.
Ben, c'est comme un réflexe normal quand t'as mal, là, ouais, oui.
Exactement, puis là, ça fait peut-être une demi-heure que je suis là, tu sais, puis moi, j'ai aucune idée comment ça prend, cette affaire-là, là, tu comprendras bien.
Ok, on te l'a pas dit, c'est non plus au départ, on t'a pas expliqué un peu...
Non, puis au fil de l'histoire, tu vas voir que c'est bien selon ma compétence, selon moi, mais bon.
Ok, intéressant.
Fait que là, moi, je pleure, tu sais, je commence à être plus impatiente physiquement, fait qu'à bouger un peu parce que je vis des douleurs, puis on me dit, faudrait que t'arrêtes de bouger, si je suis pas capable de le faire, c'est parce que t'es trop grosse.
Ah, oh, ben, tabarouette! Oh non, ça, là... Excuse-moi. Ah oui, ça, non. C'est non!
C'est correct. Tu sais, moi, je fais juste imaginer la scène, là. T'es à moitié. Oh, les jambes écartées, les fesses avancées, hein, comme à une fois qu'on te dit d'avancer tes fesses. Déjà, moi, je suis pas à l'aise avec mon corps à ce moment-là. Je manque énormément d'assurance. Tu sais, je suis pas la femme que je suis aujourd'hui, là. Je manque d'assurance, je manque de confiance en moi. Je cache toujours mon corps. Puis là, je suis tout nue, le ventre à l'air.
Faut l'exposer.
Mon ventre. Mon ancien conjoint est à côté de moi. Il m'a jamais vu le ventre, tu comprends? Tellement.
Ah, waouh, ouais, ok.
Puis là, je me fais garrocher ça.
Ah! Oh mon Dieu, c'est tellement inhumain! Arc!
Écoute, cette fécondation in vitro-là, tout ce processus-là, ça m'a donné à peu près, mon Dieu, je pense au total, on avait eu 3 embryons, dont celui qui est décédé à un des transferts d'embryons, puis tout ça. Bref. Ça n'a pas fonctionné, le premier cycle de fécondation in vitro. Je retourne à la clinique, je ne sais pas, on est 2 ans plus tard, pour commencer un autre cycle. Et c'est là où on veut me forcer à avoir un endocrinologue à cause de mon poids. Et là, l'endocrinologue de la clinique, c'est 2 ans d'attente.
Ben voyons donc, puis on t'a expliqué comme c'était quoi l'idée derrière, c'était quoi l'avantage?
Non.
OK, c'était comme c'est ça ou c'est rien?
C'est ça ou c'est rien? Non seulement il fallait que je le voie, mais il fallait que je retourne chez nous perdre du poids en faisant Weight Watchers. Puis quand j'aurais un IMC normal, je sais pas, c'est quoi, je pourrais revenir, puis là, il allait me traiter. Fait que là, moi, je suis toute seule dans le
bureau. Aïe, aïe!
Je suis souvent à la clinique seule parce que dans un processus de fertilité, gang, on prend beaucoup congé. Fait que des fois, tu sais, c'est pas les deux qui prennent tout le temps congé. Parce que sinon, tu payes pas ton hypothèque. T'sais.
Ouais, c'est ça.
Fait que je suis toute seule, je suis à Montréal, je dois revenir à Québec. Là, moi, j'ai juste envie de pleurer. J'ai quand même honte de me faire dire ça.
Oh, tellement.
Toute seule parce qu'on m'offre pas d'aide, on m'offre pas de ressources. La raison pour laquelle j'ai eu 3 transferts d'embryons qui ont été négatifs, pour eux, c'est toujours mon poids, mais on m'a jamais trouvé de problème de fertilité.
Ouais, c'est ça.
Puis en plus, il faut que j'attende 2 ans. Là, je suis comme...
Ah, c'est épouvantable!
Ben en fait, c'est que tu sens qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de choisir si tu vas être parent ou
pas. Mais à la base, c'est ça, parce que j'ai beaucoup de clientes qui se font refuser des traitements s'ils n'ont pas un IMC en bas de 30. Puis t'as nommé quelque chose d'ultra important que je dénonce énormément... Se faire juste dire va perdre du poids. Là, en plus, c'est un outil de la culture des régimes puis des diètes qu'on t'a conseillé, ce qui est carrément épouvantable et complètement non professionnel. Mais ce qui me dérange énormément dans ce discours-là, c'est comme tu l'as dit, ben on me pitch ça puis c'est comme arrange-toi. Alors que scientifiquement parlant, il n'y a aucune méthode de perte de poids qui fonctionne de façon durable, sécuritaire pour tous. puis c'est ça qu'on te demande de faire, puis on te réfère à personne. C'est épouvantable. C'est vraiment inacceptable.
Oui, puis tu te sens seule. Puis là, je veux juste rappeler qu'on est dans un processus de fertilité. Tout le monde, donc on prend beaucoup d'hormones.
Ah ouais! Ah ouais!
T'es pas en gestion toi-même. Là. Pour vrai, moi, un débat, j'étais une folle. C'est puis je le dis avec... J'étais à mon ex-conjoint, tu vas me sacrer là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne voudras jamais qu'on aille une famille ensemble. Tu sais, le stéréotype parfait de pleurer pour rien. Pourquoi tu pleures, chérie? Je ne sais pas. Le stéréotype parfait de
pleurer
toi-même. Fait quand tu te fais dire des choses comme ça, tu te sens tellement inadéquate, tellement impuissante. Quand tu parles aussi, tu sais, premièrement, c'est pas moi qui avais un problème d'infertilité, puis c'est zéro pour culpabiliser l'autre personne, là, mais mettons qu'on regarde ça avec des faits, là.
Oui, tout à fait. Très froidement, là.
C'est rendu de ma faute. C'est rendu de ma faute, et non seulement en fertilité, il faut comprendre que c'est la femme qui subit tout, là.
Ben, c'est ça l'affaire, c'est comme... Comme tu l'as dit, tu sais, c'est pas toi qui avais dénoté un problème de fertilité au départ, mais là, ça revient ta responsabilité parce que les études auraient fait un lien entre eux. Je serais curieuse, là, je suis pas ferrée en fertilité, je ne peux pas répondre. On va saluer Céline Saloumi, nutritionniste. Puis, tu sais, elle avait mentionné que oui, il y avait peut-être un certain lien dans les études, mais encore là, c'est pas un lien de cause à effet, c'est un lien souvent plus d'association. Et est-ce que ces études-là, c'est quoi? C'est la femme qui a un problème de fertilité et non l'homme? Je serais curieuse de savoir. Parce que dans ton cas, ces études-là, ils s'appliquent peut-être juste pas.
Mais moi, je connais plein de femmes qui sont deux fois mon poids puis qui ont eu plein d'enfants naturellement. Tu comprends?
Mais oui! Mais oui!
Tu comprends qu'on joue à Dieu déjà en fertilité, tu sais, dans le sens où en fécondation in vitro, on joue quand même à Dieu, tu sais.
Oui, oui, mais...
Un spermatozoïde, on crée un embryon.
Oui!
Mais... Ces gens-là ont un pouvoir décisionnel sur le reste de la vie qui est vraiment important. Puis ça, personne n'en parle. Puis souvent, les cliniques de fertilité s'associent avec des personnalités publiques. Puis c'est beau, puis c'est le fun. Puis grâce à eux, j'ai des bébés, mais on ne parle pas de cet envers de la médaille-là, tu sais.
Puis c'est des personnes minces, j'aimerais rappeler.
Oui.
Mmh. C'est ça.
Exactement. Puis on parle pas de tout ce qui est dit derrière, tous les préjugés, tous les jugements, toutes les questions, toutes les... Oh my God. Bref. Fait que ça a été l'étape 2 de 3. Ouais. Cette clinique-là, pour moi, ça a été vraiment, vraiment culpabilisant, traumatisant. Fait que, après avoir vécu ce que j'avais à vivre émotionnellement, moi, je suis plus du genre à faire comme, oh, ouais, tu sais, tu veux me faire chier, watch out, tu sais. Fait que j'ai pogné mon dossier, demande mon dossier qui est comme la chose la plus épaisse que j'ai jamais vue. Oh my God, il y a du stock là-dedans. Tu sais, quand tu te fais faire 4, 5, 6 échographies par mois, là, tu sais, il y en a du stock après une couple d'années.
Ah, ouais, hein.
Fait que, donne-moi ça, je pars avec ça, puis je vais trouver une clinique qui va bien me servir. Cette clinique-là, j'ai envie de la nommer parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire où je me suis sentie, mon Dieu, j'allais dire aimée, mais oui, aimée, accueillie, respectée, bien, tout le temps. C'est le centre, mon Dieu, c'est le centre universitaire, en tout cas, c'est McGill.
Ouais,
pour ceux qui se sont McGill, c'est le centre de la reproduction, en tout cas, bref. Vraiment... tout le monde est fin. La réceptionniste, les infirmières, les médecins, les techniciens, tout le monde est extraordinaire. Et moi, je suis arrivée là-bas, on m'a fait voir un endocrinologue en 2 semaines parce que c'était recommandé dans le dossier que je leur avais transmis.
En 2 semaines et non en 2 ans, j'aimerais rappeler.
Exactement. on parle dans la même ville, là, tout le monde. Là, hein, t'sais, ça, tout ça se passe dans la même ville. Là, fait que,
wow.
Vraiment, d'un endroit à l'autre, poser des questions. Je me rappelle avoir vu ce monsieur-là, puis là, moi, je suis stressée parce qu'il m'a dit il a le pouvoir sur...
Si ah, tellement.
Je comprends. Si lui dit que c'est non, ça va pas bien, tu sais. Et je pense que mon rendez-vous, après mes prises de sang avec lui, a duré 2 minutes, où il m'a dit, fais-tu, tu sais, bouges-tu un peu? Je suis comme, oui, on prend des marches, je monte des montagnes, j'habite en montagne, moi, fait que j'allais beaucoup monter les montagnes. Il était comme, va t'en faire plein de bébés.
Oh, wow, on l'aime!
Je te leur dis, j'ai des frissons, puis je t'ai mue.
Ah! Oh!
Tabarouette! Tu sais, comment... En tout cas, cette personne-là n'était pas consciente du tout de la pression que moi, je ressentais. Il était comme, va faire plein de bébés, t'es top shape, tu sais. T'es top shape.
Oh! Alors,
wow! Ouais, on me refusait, tu sais, sans même...
Hey, ça n'a pas d'allure.
Porter, tu comprends? Puis tantôt, je vous ai parlé de la ponction de vulve, OK? Je vous laisse imaginer, moi, c'est ma deuxième ponction de vulve, j'étais à McGill. Ma docteure est super fine, mais je ne sais pas comment ça va se passer, ma ponction de vulve. Ouais. Traumatisée de l'autre.
C'est ça, j'allais dire, t'as clairement un traumatisme, là.
Ouais, moi,
tout à fait normal, là.
Je suis encore traumatisée de mes traitements de fertilité pour bien des gens. Fait que j'attends, je rentre là. En fait, pendant que j'attends, je me souviens entendre une fille crier puis pleurer, tu sais, puis là, je me dis...
Oh, ça commence bien?
Ça va pas bien aller. Bon, finalement, c'est plus au niveau de son corps que c'était problématique que le reste. Une pauvre personne. Je rentre, c'est mon tour, puis là, moi, je suis vraiment sur le nerf. Je vous jure, ça a pas pris... J'avais un... OK, la dernière fois, là, j'avais 5 ovules. Là, j'en avais comme 15. J'en avais 3 fois plus.
Shit.
Ma médication était super mieux ajustée à qui je suis.
Wow.
Et là, je me dis, ça va être long, esti, tu sais, ça a pris une demi-heure, nanana. Je suis pas certaine que ça a pris 3 minutes.
Oh my God!
Elle m'a dit, c'est beau, c'est fini.
Moi, je
me dis, tu j'ai rien senti.
Hein?
Amniaise. Quelqu'un amniaise ici? 3 minutes.
Ben voyons donc.
Puis la dernière fois, c'était de ma faute. C'était juste de ma faute, tu sais. J'étais comme...
Shit!
Tu traînes ça aussi avec toi, là, tu sais.
Mais oui.
Tu traînes ça, tu te sens pas bien. Je me comparais. Je me comparais avec toutes mes amies aussi qui réussissaient à avoir des enfants, puis tu sais, qui étaient comme toutes plus minces que moi. Puis là, tu penses que c'est toi le problème, puis c'est toi qui n'es pas assez, puis... Aujourd'hui, je comprends l'univers, là. Je comprends pourquoi j'en ai pas eu d'enfant. On est beaucoup plus tard, puis tu sais, dans la vie, je crois profondément, même si des fois c'est vraiment rough que tout se passe dans l'ordre des choses. Mais ça reste que ces gens-là sont pas conscients de ce qu'ils font subir à leurs patients.
Non, c'est ça. C'est un vraiment, vraiment, vraiment bon point, là. Dans tellement de domaines médicaux, mais particulièrement celui-là où c'est déjà tellement stressant, puis tellement difficile, puis ils ont ton destin entre les mains, là, c'est assez... c'est pas correct de jouer avec ça, là! Ça peut tellement causer de dommages, là! Hey boy!
Ah oui, mais moi, c'est resté dans... Tu sais, je veux dire...
Quand c'est sûr!
Je redeviens émotive, je...
C'est sûr!
Je peux pas croire, tu sais, puis tu sais, des fois, quand c'est pour nous, on réagit pas de la même manière que quand c'est pour quelqu'un qu'on aime. Puis
ouais.
C'est arrivé à ma meilleure amie, là.
Ouais.
Honnêtement, là.
Ouais, ouais.
Aller là-bas, là, puis j'aurais fait pardon, tabarnak.
Ouais.
C'est sûr, alors que quand c'était pour moi, j'étais tellement envahie par la honte que j'avais juste le goût de me cacher en dessous du lit d'hôpital, tu sais, puis de sacrer mon cœur, là.
Mais... Pour vrai, Audrey, c'est tellement fréquent quand on parle de tout ce qui touche au poids parce que c'est tellement accepté socialement que le poids, ça devrait être quelque chose qu'on contrôle alors que, damn, non, pas du tout, mais pas du tout. Mais c'est tellement ancré profondément autant au niveau médical qu'au niveau de la société parce qu'on se rappelle que les médecins ou les professionnels sont des humains derrière avec leurs propres biais et leurs propres croyances. Fait que si on n'a pas l'introspection pour aller travailler ça, parce qu'on en a tous, là, on va se l'avouer, mais si on n'a pas l'introspection et l'ouverture pour aller travailler ça, ben c'est ça que ça fait. Sauf que là, dans une clinique, en plus, comme ça, le danger est encore tellement plus présent. Là. Ça me donne froid dans le dos. Je suis désolée que tu aies vécu ça. C'est sûr que tu n'es pas la seule, parce que... comme je disais, j'ai beaucoup de femmes qui se font refuser, puis c'est souffrant en tabarouette, puis c'est injuste, puis ça me fait capoter, là.
Ils travaillent tous dans... Je sais pas comment le dire, mais la clinique où ça s'est mal passé, ces médecins-là, là, ils travaillent pas juste là.
Ah, OK.
Ils sont là, c'est comme... Ça arrive à plus d'endroits qu'on pense parce que moi, les gens que j'ai croisés, je sais qu'ils travaillent dans au moins 2 autres endroits.
Oh boy!
Fait que c'est grave, là.
Ah, vraiment.
T'sais, c'est pas c'est... juste grave, en fait, c'est les personnes, t'sais, c'est pas tant l'endroit spécifiquement. Je pense que les cliniques doivent avoir certains critères, évidemment. Mais ça reste que c'est, je veux dire, pour travailler là, il faut que tu cautionnes ça, tu sais. Enfin,
mais c'est ça, c'est toute la culture autour puis les valeurs que t'endosses en ayant ce genre de comportement-là, tu sais. Waouh.
Ouais.
C'est... Non. Non, non, c'est... Non.
C'est quand même gênant à les dire, mais ça l'est plus pour moi aujourd'hui, là, mais j'ai jamais dit ça à mon entourage, là.
Dans le temps, mais c'est ça.
Il me se fait traiter de même parce que moi, j'avais honte.
C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui est le plus... Mais c'est ça qui est le plus terrible, c'est que... Puis on le voit beaucoup en grossophobie minuscule, parce que moi, je veux pas... Ben, mes auditrices, je pense qu'ils le savent. J'ai beaucoup de clientes qui viennent du podcast, puis ils connaissent ma position là-dessus, puis ils savent que c'est non, tu sais. Mais ils savent que ils peuvent tout venir me dire. Tonte, tu peux venir m'en parler. Ils savent que je suis ouverte d'esprit. Ils savent que, hey, j'ai des questions sur la médication pour perdre du poids ou j'ai des questions sur la chirurgie bariatrique. Je sais que c'est vraiment pas in en ce moment. J'ai honte d'avoir des questions là-dessus, mais je te fais confiance pour aller en parler, puis je sais que tu me jugeras pas. Mais c'est, ça, c'est un professionnel de la santé, puis t'es privilégié quand tu peux avoir les sous pour aller consulter, puis en trouver une, tu sais, qui fonctionne de cette façon-là. Mais dans la vie, il y en a beaucoup, là, qui me disent, quand on questionne un peu, est-ce que tu as du soutien dans ton réseau social? Y a-t-il des gens avec qui tu es à l'aise d'en parler? Mais si dans ta famille, il y a une culture de la minceur, il y a une culture des diètes qui est là, même si elle n'est pas intentionnelle, t'as pas de safe place pour en parler, ben ça fait comme toi, ça fait que t'es tout seul à vivre ça, puis là t'as honte parce qu'on te dit que c'est toi qui est pas correct, c'est fucking pas le cas, mais quand tu vis dedans, puis quand tu reçois ça, puis là je parle à travers mon chapeau parce que je peux pas dire que je l'ai vécu, mais je m'imagine tellement la scène, puis je comprends pas que des professionnels de la santé ne soient pas plus sensibles à cette détresse-là. S'il y en a qui écoutent, le message est passé, mais je pense que ceux qui écoutent sont déjà sensibilisés. Fait que, tant mieux. Mais ça peut faire des petits, mais tu sais, s'il y a des filles qui nous écoutent, qui vivent ça, sachez que vous n'avez pas à avoir... Quand c'est une étude où on fait des associations et non des liens directs de causalité, le poids cause des problèmes de fertilité, non, 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 non. On a remarqué que chez les gens qui avaient plus de problèmes de fertilité, il y en avait peut-être plus dans la tranche de la population avec un IMC en temps. Ouais, mais attends... OK, t'es-tu allé voir d'autres facteurs dans cette tranche de population-là? Est-ce qu'elle s'alimente adéquatement? Parce que moi, j'en ai beaucoup des clientes que justement, quand ils se font dire que le poids, ben, ils vont se sous-alimenter. Ça peut nuire à la fertilité, se sous-alimenter. T'as aussi tout le volet psychologique, t'as le stress, quand tu vis de la grossophobie, tout ça vient le teinter. Fait qu'à quelque part, faut être aussi capable de voir l'ensemble de... Faut être capable de penser un petit peu plus loin que ça, là.
Oui, puis je t'écoutais ce matin, tu sais, je sais pas l'épisode va sortir quand, puis peut-être que ce reel-là, ça va faire longtemps, mais un des reels de Sarah, tu sais, puis tu parlais de ça, du fait que quand on mange pas suffisamment, tu sais, on peut, pour certaines personnes, prendre du poids. Pis quand j'étais plus jeune, moi, j'avais consulté des nutritionnistes, puis à chaque fois, c'était ça, c'était que je me nourrissais pas assez, tu sais, puis j'étais souvent sidérée par tout ce que j'étais supposée manger. Ouais. Toute ma vie, j'avais pas... réaliser que versus le reste de la planète, là, moi, je mangeais pas, tu sais. Puis je pensais tout le temps que c'était... Tu comprends? Je pensais que c'était parce que je mangeais trop.
Mais ben oui!
Je me disais, c'est tellement important que ça aussi se soit entendu, tu sais, comme... Puis, parenthèse, tu sais, c'est parce que Sarah le sait, mais la semaine passée, moi, j'avais un rendez-vous que j'attendais depuis toute ma vie, probablement, dans une clinique spécialisée, une clinique lipidique, parce que dans ma famille, on fait de l'hypercholestérolémie familiale depuis toujours. Puis je disais à Sarah que j'avais donc peur, tu sais, qu'on me juge pour mon poids ou qu'on fasse l'association directement, que si je faisais autant de cholestérol, c'est de ma faute, alors que, tu sais, c'est vraiment un gène, c'est une problématique génétique.
Vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup.
Ça a bien passé, puis tu sais quoi, ils m'ont pesé, puis jamais personne m'a parlé de mon poids, tu sais.
Ah, wow!
Puis, comment ça se fait que dans un endroit... où on parle de cholestérol, de crise cardiaque, OK, d'artère bouchée. On me parle pas de mon poids, mais pour procréer, on décide si j'ai le droit en fonction de ma shape. T'imagines? Parce que théoriquement, là, mettons qu'on sort de l'émotion, juste théoriquement, ça serait quand même, je vais dire, normal qu'on me parle de mon poids dans une clinique lipidique où toute ma famille meurt d'une crise cardiaque. Tu comprends? C'est arrivé à tout le monde. Ça serait normal, là, mettons, qu'ils voudraient m'en parler, j'aurais pas été fâchée, tu comprends?
tu t'en attendais plus, mettons, oui, dans ce contexte-là?
Pour eux, c'était pas un enjeu, tu sais. Ils ont vérifié ma nutrition, puis ils ont fait comme, tu manges bien, tu bouges, blablabla. Ils m'ont jamais parlé de mon poids. Jamais, jamais. Alors que l'endroit
où hey, wow.
dans ma vie qu'on m'en parle, puis que j'aurais même pas été fru, ça aurait été là, tu sais.
On salue leur ouverture, merci.
J'aurais eu des outils puis de l'accompagnement parce que justement, ils veulent éviter qu'il m'arrive ce qui est arrivé à tous les autres membres de ma famille. Mais dans un endroit où je veux créer la vie, calice, on décide qu'on n'a pas le droit. C'est pas nommé. Puis tu sais, maintenant que le programme de procréation assistée du gouvernement au Québec a changé puis qu'il s'est limité dans l'accessibilité, je pense aussi que les critères sont resserrés parce que le programme auparavant coûtait extrêmement cher aux yeux de l'État. Je dis aux yeux de l'État, c'est important parce que c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il y a des critères qui sont resserrés, puis c'est ça devrait même pas être légal d'empêcher des gens de faire des enfants.
Ben c'est ça!
De vérifier leur état de santé physique. Je veux dire, tu veux c'est adopter ça. Un enfant, tu sais que si tu veux adopter un enfant, si t'es en surpoids, t'es pas...
Ah ouais?
Ah ben non, il y a des critères physiques, de santé physique.
Tu niaises!
Oui, ce serait à revérifier dans les dernières années si les critères ont changé, mais à l'époque, quand moi, j'étais en traitement de fertilité et que tout le monde, s'il vous plaît, ne faites jamais ça, OK? Tout le monde me disait, ben pourquoi t'adoptes pas?
Oh non!
Le projet
oh non!
Gang, OK? C'est pas la même chose. C'est pas des affaires à personne anyway, mais à l'époque, c'était là. Oh oui, être en surpoids était...
Le poids!
Le poids était un critère.
Parce que, tu sais, t'as dit l'état de santé... C'est une chose que je peux comprendre, mais l'état de santé n'égale pas le poids. C'est une précision que je désire refaire parce qu'elle est très importante ici.
Exact, exact. T'sais, parce que moi, après tous les examens que j'ai eus, j'en avais pas de problème, tu comprends?
C'est ça, exact. Ouais.
Moi, on me fait plein de tests constamment à cause de mon historique familial. Et tu sais quoi? Ça va très, très bien, là. Fait que c'est un peu partout, puis c'est insidieux, puis c'est pas nommé, puis... Les gens le vivent en secret parce qu'ils sont gênés, parce que ça
ne
veut pas dire « ouais, le médecin m'a traité de grosse ». Non, tu ne veux pas dire ça parce que tu espères juste que les gens, quand ils pensent à toi, ils ne pensent pas rien qu'à ça, tu sais. Fait mais je ne savais même pas que j'étais tant que ça en surpoids, mais en fait, je ne suis pas tant que ça en surpoids dans la vie. Mais
selon, en plus...
Selon ce qu'on écrit, OK?
Oui, vraiment, oui.
Je suis très consciente de ce que j'ai en train de dire, là. On module ce que j'ai en train de dire. Mais je pense que je n'étais pas à ce point, je sais pas, consciente de mon IMC, mettons, pour l'époque.
Ouais.
Puis, comme j'étais seule en face, puis moi, j'étais genre, mais voyons comment les gens me perçoivent, tu comprends?
Hey, ça peut tellement développer tellement de problématiques, autant physiques que psychologiques, des commentaires comme ça, là. Encore là, tu sais, on parle beaucoup de privilèges de la minceur, mais ça en est un, mais qui est un peu dégueulasse encore là. Ils sont pas toutes le fun, mais celui-là, il est comme... Il est vraiment pas le fun.
On va pas dans la chambre à coucher des gens faire comme, tu sais quoi, je pense que tu seras pas vraiment un bon parent, fait pas toi, tu sais. On va pas, tu sais, il y a pas de loi qui dit qui peut faire des enfants ou pas en faire. Puis quand tu vis des traitements de fertilité, puis que tu passes à travers ça, il y a des gens qui font ça pendant 10 ans, 15 ans, là, c'est extrêmement éprouvant, ça prend toute la place. Ça envahit ta vie, c'est très dur sur le corps, sur l'émotionnel, sur la relation de couple, c'est très dur pour tes relations avec les autres aussi. Quand ces gens-là sont prêts à vivre tout ça parce qu'ils rêvent de fonder une famille, je comprends pas. Moi, là, j'imagine encore la docteur, parce que ça, j'ai le droit de le dire, la docteur qui est assise dans son bureau, esti, là, puis qui me regarde, puis qui me dit ça en me regardant dans les yeux, puis qu'elle sent en Christ, tu comprends-tu? Elle n'en avait rien à foutre de me dire ça, puis je me dis, mais comment tu peux dormir le soir?
C'est ça, j'allais dire. C'est la fin, j'allais dire. Comment qu'elle fait pour dormir, man? Comment qu'elle fait pour dormir? Genre, ou elle n'a juste pas conscience.
Tu le sais.
Fermée à ce point-là.
Là. Tu le sais ce que je vis à tous les jours, là. Tu travailles là-dedans, mais t'as aucune empathie, là. Pour moi, c'est comme un médecin qui va annoncer le décès de quelqu'un à la famille, mais qui n'en a rien à foutre, tu sais. Qui parle au téléphone avec sa femme en même temps, puis qui répond à ses enfants, puis qui dit « Ouais, finalement, il est mort, puis il sac son camp, là. » C'est la même affaire, ça n'existe pas, ça. Mais tu sais, pourquoi en fertilité, on voit des choses comme ça? Je suis sidérée. Fait que moi, quand je vois des pubs de cliniques de fertilité, ça a l'air si facile, tu rentres, tu fais un chèque, tu sors, t'as un bébé, je suis comme Ah, tu sais, les gens
Seigneur.
Comprendre qu'on vit puis ce qu'on traverse, tu sais, quand c'est ça qui est montré, tout comme les processus d'adoption, les gens sont pas plus au courant que ça prend 7 ans avant d'avoir
ouais.
en moyenne, tu sais, comme va adopter, ben oui, c'est ça, tu sais. C'est
simple,
tout à fait raison.
Ça, c'est un, ouais, mais ça, c'est un autre problème. Là. C'est comme un réflexe humain de je suis mal à l'aise avec l'émotion que la personne m'envoie, fait que je vais essayer de trouver une phrase porte de sortie qui, je pense, va aider, mais qui, dans le fond, non, tu sais, zéro. Là.
Non, puis un jour, je vais clairement lancer un dictionnaire des affaires à pas dire aux couples en fertilité.
Ah, oh, oui, hein? Oh my God!
Ouais.
OK, genre quoi? On veut l'entendre. On a une primeur sur le dictionnaire.
Dire, là, dans ma,
voyons donc.
Dans ma belle famille, il y a une fête des mères où, tu sais, toi, tu te bats pour être mère. Là, on se rappelle, hein? T'es là, t'es souriante, c'est le temps du gâteau. Ah. Là, on coupe le gâteau, on arrive pour me donner la première pointe et la personne me regarde et m'a dit « Ah oh, non, c'est vrai, pas toi en famille, t'es pas mère. »
Ah, oh, ben, si bol!
Là, t'es comme, tu sais, au pire, dans ta tête,
ah, oh, ben!
C'est quoi l'utilité de me dire ça, genre?
Arc!
Ou tu sais, juste, ça savais plus comment faire, coudon? Tu sais, c'est comme tabarnak!
Hey, non! Non!
C'est qui s'installe parce que, tu sais, moi, j'étais vraiment dans une période de ma vie où toutes mes amies, c'était le moment d'avoir des enfants. Fait
ouais.
Mes amies qui sont gênées de me dire qu'ils sont enceintes, moi qui se cache pour pleurer parce que je suis contente pour elles, là, mais c'est juste, ça me remet en pleine face.
Ouais.
Fait que moi qui trouve la vie pas juste, mais qui peut pas le vivre avec mes amis parce que je vais être obligée de leur dire que ça me fait chier ce qu'ils vivent.
Ouais.
Fait que ça s'isole énormément. Là, les fêtes d'enfants commencent.
Ah oui, hein?
Pire, t'es invité, mais là, quand tous les enfants jouent ensemble, mais toi, t'en as pas à apporter, on t'invite pas, tu sais.
Ah, shit, OK.
Fait qu'on t'invite pas parce qu'on veut pas te rendre mal à l'aise, tu sais, c'est pas que les gens...
Oui, oui, oui. Ça part d'une bonne intention, mais ça accentue tout. Tout le phénomène.
Il y a les non-dits, il y a le malaise, il y a toi, ça, tu sais, t'en as pas, ça fait 7 ans, mais tu sais, eux autres, ils sont rendus à leur 3e à te dire qu'ils vont avoir, tu sais, puis ils sont comme Puis ça crée des distances, ça crée des tensions. Il y a aussi les gens qui sont comme, mais là, tu sais, ça vous tente pas d'arrêter, ça marche pas, là, t'es comme.
Ah non! Hey, sérieux, les gens!
Pire que je vais regretter. Tu sais, moi, je suis allée au bout de ce que j'étais capable de vivre, puis aujourd'hui, à 38 ans, j'ai pas de regrets.
C'est ça.
Si ouais, je suis allée au bout, j'en aurais.
Mais le point, André, c'est que t'as pas besoin de te justifier à personne. Tu sais, chacun ses décisions. Ça, c'est tellement important.
Il y en a qui vont le faire 15 ans. Moi, chapeau à ceux qui vivent ça 15 ans. Fait que c'est ça, tu sais, puis ça prend des patrons à job compris, tu sais, qui sont
compréhensifs, ouais.
Là, je manquais tout le temps du travail, j'étais jamais là, pour vrai, là.
C'est sûr.
Vraiment quelque chose, t'sais. Puis je pense que dans la société, il y a une affaire qui est comme un peu trop simplifiée, là.
Ah, oh, ben c'est comme perdre du poids, c'est facile, fait que, tu sais, la fertilité, c'est ouais. Facile aussi, là, voyons. Voyons, gang! Ben ouais! 1 + 1 = 2, hein? Ouais, c'est comme le poids, c'est mathématique. Mange moins, bouge plus. Ouais, non.
Non, non.
Juste non. Non. Ah, mon Dieu. Mm. Ouais, c'est troublant.
Ouais, mais ça a fait de moi qui je suis. Parce que là, ce que je vous ai pas dit, là, c'est que j'ai fini par tomber enceinte. Je n'ai pas d'enfant, ça s'est malheureusement soldé par une fausse couche. Tu sais, à mon échographie de viabilité, le petit cœur du bébé battait pas. Puis là, je mentirais là, si je disais que ça avait passé, là, ça n'a pas bien passé après 7 ans.
Ah non, c'est
arrêt de travail, shit. Dépression. Je trouvais que la vie n'était pas juste en tabarouette.
Ouais, tu avais le droit.
Là, j'étais un peu dans ma position de victime parce que j'étais comme un Christ pour vrai, là. Pour vrai, pour une fois que ça marche, tu sais. Mais pour de vrai, ça a fait qui je suis aujourd'hui, de vivre tout ça, puis de vivre... ma fausse couche, pour moi, ce bébé-là m'a appris que j'essayais donc d'avoir du contrôle puis du pouvoir, c'est quelque chose que je contrôlais pas, parce que tu sais, à un moment donné, c'est ce que tu peux en fertilité, mais t'as pas de pouvoir.
Mais oui, non.
Mais que dans ma vie, toutes les autres fois, j'étais malheureuse complètement, mais que ça, je pouvais changer ça. Puis si ça, c'était pas arrivé, ce petit bébé-là que j'avais appelé Jack dans ma tête, ben je serais pas, tu sais, je serais pas travailleur autonome aujourd'hui, j'aurais pas une business depuis 6 ans. Fait sais, tantôt, je disais, tout arrive pour une raison, puis des fois, c'est pas facile de s'en rendre compte. Des fois, il y a des tragédies, tu sais, des décès soudains, de la maladie.
Oui. Ouais.
Puis c'est vraiment facile à dire à quelqu'un qui vient de perdre... ma belle-sœur, moi, a perdu sa fille dans un accident de voiture, tu sais.
Ah, oh,
fuck! 3 ans, tu sais, c'est... Puis pourtant, ma belle-sœur, elle m'a toujours dit, j'ai tout le temps dit que tout arrivait pour quelque chose, mais là, j'y arrive pas encore.
Ah, c'est sûr.
Ça peut prendre des années avant qu'on voit ça, mais pour moi, ça m'a permis ça. Est-ce que c'était le fun? Est-ce que je le revivrais?
Ouais.
Je pense pas. Mais ça m'a permis de devenir qui je suis, de développer mon assurance aussi, ma confiance en moi. De plus me laisser marcher ses pieds, tu sais, parce qu'avant, justement, je disais rien, puis tu pouvais m'écraser comme tu voulais, mais aujourd'hui, il n'en est pas question, tu sais. Ça n'arrivera pas. Fait que ça s'est bien terminé, en guillemets.
Ouais, on laisse ça sur une note positive, mais je pense que c'est un bel espace aussi pour aller mentionner, n'hésitez pas d'aller consulter, tu sais. Peu importe le problème, c'est pas obligé d'être gros, mais si pour vous, c'est souffrant, il faut aller la chercher, cette aide-là, pour être capable de passer au travers, tu sais. J'ai pas de honte à le mentionner que je l'ai utilisé cette aide-là aussi. Puis des fois, c'est niaiseux, là, parce que là, on parle de gros enjeux, mais des fois, la culpabilité est tellement facile parce qu'on. Moi, j'étais coupable parce que j'avais pas de gros enjeux à aller parler en psy, là. J'étais coupable, honnêtement, là, puis j'étais à bout, puis tu sais, chimiquement, dans mon cerveau, ça allait plus. Mais j'étais coupable parce que je me disais, mais ma vie, moi, elle est pas difficile, fait que j'ai pas à être dans cet état-là. Que c'est ça. Ça peut aller loin, là. Fait que, oui, toutes les raisons sont bonnes pour consulter. T'as pas besoin de vivre quelque chose de grave. ferme-la en parenthèse. Puis le pire, c'est que j'ai vécu de quoi vraiment tough après, puis vraiment grave. Puis j'étais plus solide, tu sais, veux pas. Puis j'ai consulté un peu, mais j'ai pas eu autant besoin, tu sais, parce que j'avais consulté finalement au bon moment avant, tu sais. J'avais passé outre ma culpabilité. Mais bon, fermez la parenthèse.
Mais on l'a pas dit, mais pour vrai, moi, j'ai consulté pendant presque... J'ai consulté 7 ans, mais les 7 ans, c'est pas, tu sais, jour 1 du processus de fertilité. Là, j'ai continué après. Mais moi, j'ai vu une psychologue aux semaines et aux 2 semaines, presque, pendant 7 ans. Puis c'est tellement sain de le faire. Puis moi, cette femme-là, pour moi, elle m'a... Je veux pas dire elle m'a sauvé la vie parce que j'avais pas d'intention en ce sens-là, mais elle m'a sauvé la vie dans le sens où elle m'a permis de me connaître et de me reconnaître comme être humain.
Mm-hmm.
Ça a été un des plus beaux cadeaux que je me suis pas fait dans la vie, d'aller en psychothérapie. Fait que,
totalement.
Go, gang! Si vous sentez le besoin, allez-y. Je sais que c'est difficile à trouver ces temps-ci, mais...
Effectivement.
Vraiment. C'est vraiment un beau cadeau.
Ouais, je suis tellement d'accord. Tellement d'accord. Merci pour ce méga beau partage pas facile. C'est un gros morceau. Mais je trouve ça tellement important d'en parler parce que, comme tu l'as si bien mentionné, quand tu le vis puis que tu es dans la honte, ben t'en parles pas puis tu penses que tu es tout seul. Puis un des aspects qui m'a poussé à faire le podcast puis à recevoir des témoignages et pas juste des experts, c'était ça. C'était parce que des témoignages comme ça, j'en recevais tout le temps dans mon bureau pour plein d'enjeux puis c'était toujours j'ai honte puis je pense que je suis toute seule. Non, t'es pas toute seule. Sache que t'es pas toute seule.
Non. Mais merci pour cet espace-là. On en avait
besoin. Merci. Oui, mais merci à toi. Puis, t'es pas toute seule. Puis, tape-toi pas sa tête, c'est pas de ta faute. J'aurais comme le goût de conclure là-dessus.
Merci.
Merci, Audrey. Puis là, mettons, là, que comme moi, on est comme full en amour avec ta personnalité. On peut-tu t'écouter pareil sur ton podcast, même si ça n'a pas à voir avec le poids?
oui, mon Dieu, mon podcast, il parle quand même un peu de business parce que je suis une femme en affaires depuis 6 ans. Puis j'accompagne beaucoup, beaucoup de femmes entrepreneurs versus des femmes non-entrepreneurs, je vais dire. Mais moi, je parle de mindset, de développement personnel,
c'est
de
faire,
de s'aimer, de prendre sa place, de réaliser ses rêves. J'ai des invités extraordinaires aussi sur le podcast qui viennent parler de leur histoire. Fait que, mon Dieu, oui, je pense que même si je parle aussi business sur ce podcast-là, toutes les femmes peuvent se reconnaître dans ce que je dis. Parce que, quand tu as une entreprise, tu le sais, là, mais ton entreprise, c'est toi. Fait que quand on parle de business ou qu'on parle de l'humaine, on parle anyway de l'humaine.
oui, tout à fait.
Absolument, c'est l'attachante disponible sur toutes les plateformes préférées. Parfait. De tout le monde.
Moi, je mettrai le lien dans la description de l'épisode.
Merci.
Voilà. Good. Merci à toi. Une prochaine jase. Et puis pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode.
Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.